Vous êtes sur RTL.
Nous sommes samedi, c'est RTL, il est 9h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce 7 septembre et le gouvernement a tranché, il faudra respecter une distance de 5 à 10 mètres entre les habitations et les champs traités avec des pesticides.
Un décret doit entrer en vigueur au mois de janvier. À partir de lundi, ce texte sera soumis à une consultation sur Internet. On sait déjà ce qu'en pensent certains maires qui ont en vain tenté d'interdire les pesticides autour de leur commune. Ils voulaient une distance bien plus importante que celle décidée par l'exécutif, Marion Ferrer.
150 mètres, pas question pour le gouvernement. Il suivrait donc les recommandations de l'ANSES, soit 5 à 10 mètres à proximité des habitations. Une distance qui varie entre les cultures, les légumes ou les céréales. Une hérésie pour le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine. Daniel Cueff est devenu le symbole de ces élus en colère.
Ça existe déjà. C'est une espèce de règle qui d'ailleurs est impossible à respecter parce que en Bretagne, par exemple, jamais il y a un vent en dessous de 10 km heure. 10 km heure, c'est une feuille d'un arbre qui bourrisse. Et pire, si vous voulez, c'est que dans ma commune, les habitants ont pris l'initiative de faire l'analyse d'urine. Chez les enfants, vous vous rendez compte, ils ont trouvé jusqu'à 30 fois la norme autorisée dans les urines de leurs enfants, alors que ces mêmes enfants mangent bio chez eux et à la cantine municipale qui est 100% bio.
Le gouvernement souhaiterait une mise en vigueur au 1er janvier prochain. Dans les semaines à venir, une concertation devrait s'ouvrir entre les élus et les agriculteurs.
Marion Ferrer du service qualité de la vie pour RTL. Pour le 43e samedi consécutif, des Gilets jaunes se donnent rendez-vous aujourd'hui. Montpellier a été désignée comme ville de ralliement. À Paris, la préfecture de police applique à nouveau les mêmes mesures qu'avant les vacances, c'est-à-dire que dans certains quartiers, il est strictement interdit de manifester. C'est le cas évidemment sur les Champs-Élysées.
Et on vous met les détails sur RTL.fr, bien évidemment. Aigle Azur en très grosse difficulté financière. La deuxième compagnie aérienne française pourrait disparaître.
Elle est en redressement judiciaire et il lui faut retrouver un repreneur dans les 48 heures. Énorme inquiétude chez les salariés qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont devenir. Et pendant ce temps, des milliers de passagers sont bloqués, surtout en Algérie et au Mali. Depuis hier soir, plus aucun avion ne vole et c'est certain, la compagnie ne remboursera pas les billets vu sa situation financière. Situation qui aurait pu être évitée selon Philippe Bonne. Il est conseiller de l'actionnaire Gérard Houa qui souhaite reprendre Aigle Azur. Il était votre invité hier soir sur RTL, Stéphane.
J'aime pas trop porter de jugement sur des prédécesseurs éventuels, mais il est objectif et factuel que le management a clairement failli dans la stratégie de gestion de l'entreprise. Quand on arrive à des niveaux de pertes aussi importants après avoir prétendu qu'on gagnerait de l'argent, c'est méconnaître ce métier. Ils ont ouvert, semble-t-il, des routes comme ça un petit peu au hasard. Ils ont réduit leur part de marché sur l'Algérie, qui était leur core business où ils gagnaient de l'argent. Ils se sont séparés d'une partie de cette part de marché stratégique pour aller ouvrir des routes où ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc oui, à minima, il y a eu des erreurs techniques de gestion. Nous n'aurions pas dû en arriver là.
Philippe Bonne sur RTL. Aigle Azur ne va pas pouvoir dédommager les passagers dont les vols ne sont pas assurés. En revanche, plusieurs compagnies, dont Air France et Vueling, leur proposent des tarifs spéciaux.
Siphonner le réservoir des poids lourds, le filon rapporté gros dans le Jura.
Oui, les policiers viennent d'arrêter quatre malfaiteurs qui effectivement avaient trouver une bonne façon de se faire beaucoup d'argent sans prendre de très gros risques, comme l'explique Patrick Pridrozny, le commandant de la police nationale de Dole.
Le procédé classique, c'est siphonnage avec un tuyau d'arrosage. Le vol de gasoil était très rentable. Il était revendu sous le manteau à 1 euro le litre. On parle de plus de 10 000 litres, 12 victimes. Donc la nuit, ils pouvaient ramener 300 à 400 litres de gasoil par nuit. Au début, ils étaient organisés. Le vol se faisait en petite quantité. Ça se faisait au niveau des bidons et tout. Et après, le quatuor avait investi dans une grosse cuve. Donc il pouvait recevoir jusqu'à 800 à 1000 litres. Ces quatre personnes étaient dues à suivi depuis un certain temps par les effectifs BAC. C'est une belle affaire. C'est peut-être plus simple maintenant de voler du gasoil en campagne qu'en ville où il y a là une vidéosurveillance de plus en plus dans les villes.
Des propos recueillis par Guillaume Chiez pour RTL. Ce matin, à 10h30 précisément, des proches de Roxane et des volontaires vont commencer à faire des battues dans les Yvelines. L'adolescente de 13 ans n'a plus donné aucune nouvelle depuis mercredi. Elle a quitté le domicile de ses parents sans argent ni portable. La gendarmerie lance un appel à témoins. Roxane, 1m55, est vêtue d'un jean et d'un sweatshirt noir.
Une pause, vous restez bien avec nous dans un instant. On va évoquer la fermeture de la dernière usine de tabac en France. À tout de suite.
RTL Matin 9h07, la suite du journal, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et donc en Dordogne, Agnès, une page se tourne, la dernière usine de tabac française va fermer.
Oui, le site de Sarlat va effectivement fermer ses portes le mois prochain. 33 salariés sont concernés. Alors ce n'est pas une surprise, la demande est différente, mais pour la région, c'est un changement d'époque, Denis Grangeau.
Oui, devant les immenses bâtiments quasiment tous fermés, à l'exception d'un ou deux entrepôts, Laurence, salariée depuis 1987, a du mal à se dire que cette fois, c'est vraiment fini.
C'est à la fois un traumatisme, c'est pas une grande nouvelle, même parce qu'on s'y attendait néanmoins, hein, un jour ou l'autre.
Un immense gâchis.
Éric Tabanou, le directeur de l'usine France Tabac.
Une partie de la production française n'a pas réussi à s'adapter aux exigences du marché, donc faut aussi balayer devant sa porte.
Laurent Testu est le président de la coopérative qui regroupe 250 producteurs en Dordogne.
Quelque peu atterré, mais il faut qu'on se remette en place sur le vélo. C'est trouver des marchés de suite.
La fermeture de l'usine de Sarlat, c'est comme une page qui se tourne dans la région.
Là-bas, il y avait du tabac. Et partout du tabac.
Paul a presque 90 ans, il vit dans un tout petit village près de Sarlat. Pour lui, c'est l'État qui est responsable de la fermeture de l'usine.
Vous croyez que d'autres produits qui se font dans l'industrie, c'est plus sain que le tabac? Hein? Mon arrière-grand-père, moi, il fumait, il chiquait. Il est mort à 80 ans. Faut pas rigoler.
Les producteurs de tabac de la Dordogne devraient se tourner vers le vapotage. L'autre partie de leur production sera désormais envoyée en Croatie pour y être transformée.
Le reportage de Denis Grangeau en Dordogne pour RTL. L'Inde visait la Lune, c'est raté. Le pays ne deviendra pas la quatrième nation à atterrir dessus. D'ailleurs, on dit plutôt à l'unir, logique. L'agence spatiale indienne a perdu contact avec la sonde alors que celle-ci amorçait sa descente ce matin.
Agnès, le retour de Michel Platini, l'ancien président de l'UEFA, est déterminé.
Oui, depuis 2015, il lui est interdit de pratiquer toute activité dans le football à cause d'un paiement controversé de 2 millions de francs suisses effectué par Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA, lui aussi suspendu. Eh bien, pour l'ancien capitaine des Bleus, la sanction prend fin dans un mois. Et le 7 octobre, dans un entretien très fort à nos confrères suisses de la RTS, il le dit, il ne cache absolument pas son impatience.
Je reviendrai. Ouais. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis, une suspension comme ça. C'était très difficile parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. On vous traite de falsificateur de compte, on vous traite de corrupteur, de blanchisseur d'argent. J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre des gens de la FIFA et des gens du ministère public, oui.
Suisse,
oui. Mmh. Tout ça pour pas que je sois président, pour me virer. Vous savez, j'ai 64 ans, pendant 50 ans, je me suis consacré au football, et pendant 4 ans, là, j'ai eu des vacances. Mmh. Pas mal, hein.
Forcé.
C'est pas mal, les vacances. Forcé, mais c'est pas mal du tout, je vous le dis.
Ah ouais, enfin, le repos, c'est pas mal, mais on a bien compris son désir de revenir sur le devant de la scène à Michel Platini. Toujours en foot sur le terrain cette fois, Stéphane. La France reçoit l'Albanie ce soir, 20h45, match des éliminatoires de l'Euro 2020 que les Bleus veulent absolument remporter pour donner le ton de cette rentrée. Il faudra faire sans Mbappé, Kanté ou encore Pogba qui font partie des nombreux blessés actuels. Les champions du monde ont une motivation supplémentaire, prendre leur revanche après leur humiliante défaite en Turquie, c'était au mois de juin. Pourtant, si l'on en croit le baromètre sport Odoxa pour Groupama RTL, Eric Silvestro, le public a plutôt oublié cet épisode.
Effectivement, la défaite en Turquie n'a pas entamé le crédit des Bleus. Un an après leur sacre en Coupe du Monde, la popularité de l'équipe de France se maintient à un très bon niveau. 7 Français sur 10 ont une bonne image de l'équipe nationale et 89% des fans de foot la soutiennent. 61% des personnes interrogées considèrent d'ailleurs que la France a de grandes chances de briller lors de l'Euro 2020. Mais pour cela, les Français comptent sur leur star Kylian Mbappé. Son absence face à l'Albanie et Andorre est considérée comme la plus préjudiciable par 70% des sondés, bien plus que celle de N'Golo Kanté, 14%, ou Paul Pogba, 12%. Enfin, les Français se montrent assez conservateurs avec les champions du monde. 1 sur 2 souhaitent en effet que Samuel Umtiti évolue aux côtés de Raphaël Varane à l'Euro. Clément Langlais, titulaire à Barcelone, souffre d'un déficit d'image et ne recueille que 19% des voix, devancé également par Aymeric Laporte.
Et Eric Silvestro du service des sports de RTL. France-Albanie, c'est à suivre sur M6, mais aussi sur notre antenne à partir de 20h dans le Club Lisa. Notre consultant Bichente vous fera vivre la rencontre en direct, bien évidemment. En tennis, avant la finale Medvedev-Nadal demain à l'US Open, puisque l'Espagnol a sorti cette nuit l'Italien Berrettini en 3-7. Avant cette belle affiche, eh bien, finale dames ce soir entre Serena Williams et la Canadienne Andreescu.
Un moment suspendu, Agnès, hier soir au Mont-Saint-Michel où Laurent Voulzier se produisait.
Ah oui, cela faisait partie des rêves du chanteur d'organiser une tournée dans des édifices religieux. Comme hier soir, il se reproduira dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel ce soir devant 400 spectateurs, accompagné uniquement de deux musiciens. Le concert est unique comme le lieu.
Le Mont-Saint-Michel vraiment est un endroit tout à fait extraordinaire. Bon, je suis pas le seul à le penser. Je pense qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui y pensent comme moi. Quand on arrive de loin, on voit ce mont comme ça au milieu de la mer, et on dirait un mirage. Et quand on s'approche, ça ressemble à un rêve. Et quand on est dessus, c'est irréel, quoi. Vraiment irréel. C'est vraiment très extraordinaire, quoi. Très extraordinaire, ouais, vraiment. Puis là, ça y est, ça se fait, quoi. C'est merveilleux. Le répertoire qu'on fait est un répertoire qui rentre en résonance avec les lieux, voilà. Et puis, les arrangements des chansons qu'on a choisies sont faits en fonction des lieux. C'est pas des zéniths ni des théâtres, voilà. C'est-à-dire que c'est pas des endroits neutres. Il faut jouer avec, mais c'est le challenge et c'est formidable, quoi. Moi, j'ai toujours des jolies histoires dans ma vie, j'ai de la chance, voilà.
Chanceux Laurent Voulzy avec Julien Caillard pour RTL, qu'il est tout autant.
Mont-Saint-Michel, hein, ce soir,
ouais.
Concert.
Bah on y va tous, non?
Ouais, pourquoi pas.
C'est sympa
ouais.
Comme surprise, merci Stéphane.
Ouais, alors, c'est cadeau, il n'y a pas de problème, c'est la rentrée. Allons-y, on fait un bus.
Oh oui, un bus.
Ah, pourquoi pas.
Ce serait génial.
C'est trop bien, ça.
Ouais.
Avec la musique à fond à l'intérieur, tout ça, tout ça.
Je fais la playlist.
Football, non, surtout pas. Football ce soir sur M6, bien sûr, pour les Bleus et sur RTL en direct.